14h-15h le samedi, Kiosque, Cynthia Isarelli.
Bonjour, vous tombez bien, aujourd'hui Kiosque est de sortie. Et oui, nous sommes en direct de la Foire du Livre de Bruxelles où ne se promènent d'ailleurs pas que des lectrices, mais aussi des conteurs, des diseuses, des passeuses de paroles et puis des énergumènes déclamatoires. Qui a dit après tout que la lecture était forcément une occupation solitaire et silencieuse? Aujourd'hui donc on va explorer les liens entre l'écriture, fictionnelle ou non d'ailleurs, et les arts de la scène avec deux invités qui aiment à passer de l'un à l'autre. Isabelle Wery, comédienne, metteuse en scène, autrice bien connue du public belge, qui viendra nous parler de son dernier roman rouge western qui investira tout bientôt la scène sous forme de sieste sonore. Et puis, vous le savez peut-être, la Foire du Livre se met au diapason cette année des littératures germanophones. Alors l'occasion était trop belle pour attraper dans nos filets ce papillon rare qu'est Lukas Berfuss, auteur et dramaturge suisse germanophone qui a signé ces 25 dernières années quantité de romans, d'essais, de pièces pour la radio ou encore le théâtre. On citera par exemple Pétrole, Le Voyage d'Alice en Suisse ou encore 100 jours sans nuit. L'occasion donc d'entendre une voix et une vision du monde hors Belgique francophone. De l'écrit à la scène, mais aussi de la scène à l'écrit, que faire de ces textes dits, où et comment les conserver? On se penchera sur le monde un petit peu à part de l'édition des textes de scène avec Émile Lanceman, des éditions Lanceman, qui depuis 1989 fait le pari d'éditer des textes de création contemporaine d'artistes émergents. En renfort caisse, à cour et à jardin, je ne sais jamais dans quel sens, et de toute façon je m'en fiche parce que une autrice m'a dit récemment qu'elle ne savait pas non plus. Il y a Cédric Wauthier, François Caudron. Bonjour les amis.
Mais bonjour.
Cédric, non seulement vous logez à la Foire du Livre depuis jeudi, je pense, mais vous avez quand même trouvé le temps d'aller voir un spectacle.
Oui, et d'autant plus heureux que je suis, parce qu'on va parler d'amour.
Ah, et on aime ça quand vous nous parlez d'amour. François, par contre, vous, c'est ici, dans les allées de la Foire, que vous avez trouvé du théâtre.
Oui, et on s'intéresse à une forme de lecture qui est particulière, c'est la lecture Kamishibai, une tradition qui vient du Japon, et puis vous allez l'entendre, chaque lecture débute par les trois coups du théâtre.
Ah ben voilà, on a hâte d'entendre ça. Et puis nous recevrons aussi Camille Pierre, poète, chanteur et illustrateur, histoire de conclure ce kiosque en poésie. Merci à Morgane Coljon, Catherine Robert, Michael Visano et Thomas Lavandome qui préparent cette émission. Le kiosque du jour est avancé et il est en français dans le texte.
Kiosque sur la première.
À force de creuser chaque semaine le vivant, ce qui se passe au plateau, sur les scènes, on en oublierait presque que souvent, presque toujours en fait, il y a en amont ou en aval de l'écrit, du texte, et que ces écrits se disent et se lisent. Qu'est-ce qui différencie finalement l'écriture scénique de l'écriture romanesque ou l'écriture livresque tout court? Est-ce que tout texte est bon à dire? Est-ce que toute pièce est bonne à lire? Bon, je vais arrêter les allitérations, sinon comme d'habitude, je vais finir par poser toutes mes questions d'un seul coup. Bonjour Isabelle Wery.
Bonjour Cynthia.
Bienvenue. Vous êtes autrice, merci, comédienne, metteuse en scène, chanteuse aussi parfois. Votre ramage et votre plumage sont bien connus du public belge. Là, on va parler de Rouge Western, votre dernier roman qui est paru au Diable Vauvert, qui devient tout bientôt une performance scénique. Et à côté de vous, il y a, on l'a annoncé, Lukas Berfuss. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. On est ravis de vous recevoir dans Kiosque. C'est une première pour nous. Vous êtes auteur et dramaturge. Vous venez de Suisse. Vous êtes une des toutes grandes signatures contemporaines de la littérature germanophone. Plusieurs de vos écrits ont paru en français, respectivement aux éditions de L'Arche, je pense, pour les textes de théâtre, et aux éditions Zoé pour les essais et les romans. Éditions Zoé qui sont d'ailleurs ici sur la Foire du Livre. Le dernier qui vient de paraître en français, c'est d'ailleurs Le Carton de mon père, réflexion sur l'héritage, où il est aussi beaucoup question de littérature en fait. Alors vous ne vous connaissez pas, je crois, vous avez juste fait connaissance juste avant, donc on fait un peu les entremetteurs ici dans Kiosque. Je me demandais, quand il s'agit de vous présenter justement à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, c'est quelle facette de vos multiples métiers qui vient en premier généralement?
Alors chez moi, c'est sûrement écrivain. Alors je trouve ça toujours quelque chose de merveilleux, je dois vous dire, que je suis arrivé de faire ma vie avec ma plume. Et puis tout le reste vient de ça, que je suis écrivain. Je fais aussi des modérations, je fais des programmations aussi pour le théâtre, des séries de discours, je fais plein des choses, mais tout vient de lire et écrire.
Tout part de l'écrire, chez vous. Mmh. Ouais. Isabelle?
Et moi, je me définis plutôt comme une actrice qui écrit. Parce que c'est vrai que mon premier métier, c'est le théâtre, en tant qu'actrice, metteuse en scène et puis autrice. Mais il y a toujours un lien avec moi entre la scène et le roman, par exemple, puisque je m'y adonne depuis quelques années maintenant, mais il y a toujours un lien.
Votre travail est différent, votre travail d'autrice est différent parce que vous êtes avant tout comédienne?
Mais je pense, oui, parce que le fait d'avoir interprété d'innombrables rôles, des écritures magnifiques, ça a sédimenté en moi, je dirais, toutes ces langues, toutes ces dramaturgies, et c'est vraiment un atout, c'est vrai.
Ouais. Alors, votre premier roman, il paraît en 2006, ça s'appelait Monsieur René, et finalement, c'est déjà une mise en abîme du théâtre, parce que c'est un roman qui nous raconte l'histoire d'une légende du théâtre qui demande à une jeune femme d'écrire un livre sur lui. C'est un hommage, je pense, à René Hainaut.
Tout à fait.
Qui était votre mentor. Donc finalement, vos premiers pas dans le roman vous ramènent déjà au théâtre.
Oui, tout à fait, mais je mélange les deux tout le temps, et je m'amuse de ça, de jouer avec les codes, de mélanger la poésie, les textes qui sont plus oraux, les dialogues, les monologues, etc. Je m'inspire beaucoup, en fait, de dramaturges comme Bertolt Brecht, par exemple, ou même Shakespeare, qui mélangent les codes et les styles. Mmh. Et je trouve que c'est une manière ludique de raconter des histoires.
Oui. Lucas, vous avez un parcours fort peu linéaire. Vous avez eu plusieurs métiers avant de vous établir vers 25 ans comme libraire. Un métier qui, vous l'avez raconté dans vos écrits, vous sort de la précarité et vous permet ensuite de vous consacrer à l'écriture. Je pense que vous commencez à écrire officiellement vers 1997. En 2003, vous êtes élu jeune dramaturge de l'année. C'était pour votre pièce « Les névroses sexuelles de nos parents ». Qu'est-ce qui vous pousse alors à aller vers l'écriture de scène? Parce que si j'ai bien remis la chronologie dans l'ordre, parce que vous avez plusieurs biographies qui se superposent, vu que vous avez eu plusieurs vies, j'ai l'impression que les premiers écrits étaient quand même déjà des écrits de scène. Est-ce que c'est juste?
Oui, ça c'est une très bonne question, et puis j'ai jamais trouvé une réponse. Pourquoi je suis resté au théâtre? Parce que ça peut être compliqué, il y a plein de gens, il faut faire la politique comme dramaturge. On ne peut pas se cacher derrière sa table de travail, donc il faut vraiment s'y mettre. Et je trouve la chose qui m'a toujours plu, je crois que c'est le contact direct avec le public. Mm-hmm. On a toujours une réaction très, très spontanée au texte qu'on a écrit, quelque chose on vit jamais avec les livres. On ne sait pas si les lecteurs, les lectrices pleurent ou rient. Et puis j'apprends toujours beaucoup au théâtre. Et puis l'autre chose, je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment dans ma jeunesse, parce que j'ai grandi dans le théâtre populaire, dans le Berner Oberland, quelque chose qui est très important. Donc presque toute ma famille a joué du théâtre. Mm-hmm. Et j'ai toujours adoré cette côté un peu, je sais pas, presque paysan, le théâtre rude où on fume, on se jette des verres, toutes ces choses comme ça. Donc, et je pense aussi, on trouve ça toujours dans mes textes. Donc mes textes sont toujours entre le haut et le bas. Aussi quelque chose, et puis vous l'avez déjà mentionné, qu'on trouve chez Brecht et Shakespeare surtout.
C'est intéressant, donc il y a un phénomène d'équilibre en fait, l'écriture de théâtre, ça vous ramène ancré, oui, au sol, là où la littérature peut-être ça élève dans des sphères un peu trop abstraites.
Oui, et c'est quelque chose qui est assez facile pour moi, donc j'ai publié une quarantaine de pièces, et puis c'était jamais quelque chose qui me mettait beaucoup d'obstacles. Mm-hmm. Quelque chose que je peux pas dire avec les textes pour les livres. Mm-hmm. Là, c'est trop compliqué souvent pour moi. Mm-hmm. Avec le théâtre, c'est quelque chose de naturel pour moi.
Est-ce que le plaisir est différent quand on écrit pour le théâtre ou pour un livre ou un roman?
Oui. Complètement, parce que je trouve aussi qu'il faut être modeste comme dramaturge. Personne ne va au théâtre pour les textes d'abord. Le centre du théâtre sont les comédiens, les comédiennes. Et puis et j'ai toujours écrit pour que les comédiennes se sentent bien avec mes textes, qu'ils trouvent toujours des choses à découvrir. Et le contact avec ces gens qui incorporent mes textes, c'est vraiment un plaisir.
C'est un privilège. C'est un exercice complexe aussi de passer par le théâtre, d'accepter qu'un texte soit revu, revisité par un interprète, par un metteur en scène.
Ça c'est toujours quelque chose que mon ego se bat avec ce fait. Il faut le dire, c'est vraiment je suis pas l'impérateur sur la scène, c'est que sont vraiment les comédiens. Et mais c'est pour ça que je m'essaye de me lancer dans les deux chambres. Mmh. Ouais.
Isabelle, comment ça s'équilibre justement chez vous, le rapport entre l'écriture romanesque et puis l'écriture de scène? Est-ce que c'est mélangé, ou est-ce qu'au contraire, là aussi, il y a quelque chose que vous trouvez d'un côté qui ne se trouve pas de l'autre?
Mais c'est très mélangé. Souvent, mes textes que j'écris pour la scène se retrouvent en partie, les idées en tout cas des tronçons se retrouvent dans mes romans. Et donc, pour moi, il y a un passage assez naturel, comme d'emblée, mon écriture est assez orale. Mmh. Je sais pas, tout ça se mélange assez bien. Et moi, ce que j'adore, c'est avec le livre, c'est le roman, c'est embarquer dans une aventure individuelle, les lectrices, cette espèce d'histoire que je viens leur raconter, leur susurrer à l'oreille. Moi, c'est ce grand plaisir et cette particularité du roman. Après, le travail en équipe au théâtre est extraordinaire. Parce que voilà, c'est une énergie collective, tout ça tendu vers le public, vers aussi un qui est là en chair et en os. C'est un moment magnifique, un élément de la démocratie. Non, c'est extraordinaire.
Est-ce que chez vous aussi, il y a une espèce de phénomène de liminarité qui se crée? Est-ce que la romancière déteint sur la professionnelle de scène et vice-versa? Est-ce qu'écrire des romans, ça fait de vous une meilleure comédienne, une meilleure metteuse en scène?
En tout cas, mais pour l'instant, je m'oriente, c'est vrai, vers des formes un peu particulières qui sont des formes de performance, de sieste sonore.
Oui. Comment ça se passe d'ailleurs?
Alors,
racontez.
On invite les spectateuristes sur la scène du théâtre. Déjà, on déséquilibre un petit peu leur rapport à la scène habituelle. Et on les invite sur la scène, on les allonge dans des transats et on leur susurre, on leur raconte l'histoire, des extraits du roman, évidemment, une adaptation.
On peut faire l'exercice. Je ferme les yeux, je pars en sieste.
Mais allez,
on y va.
Oui, parce que quand on ferme les yeux, on entend différemment. C'est comme si on attrapait des immenses oreilles de lapin et on est mieux connecté à ce qu'on écoute, aux images qui se forment dans le cerveau. C'est vraiment un exercice pour moi extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'y consacre pleinement pour l'instant. Et puis tout ça avec une musicienne électronique. Là, notre sieste prochaine, c'est avec la musicienne chanteuse Sarah Espour, mm-hmm. Qui livre une musique électronique et des chants en live aussi. Et puis on travaille aussi avec un plasticien qui est Marcel Berlanger, un plasticien belge. Et donc on donne des toiles aussi, des peintures suspendues dans les airs, qui sont comme des espèces de luminaires fantomatiques, et tout ça éclairé par Lionel Huberschlag. Voilà, donc c'est toute une atmosphère, un contexte qu'on construit pour le public et qui est à la fois envoûtant et puis en même temps, oui, ça le rend très, très, très sensible. Mmh. C'est vraiment une position intéressante.
Et justement, un livre, c'est une adresse qui est portée, ce sont des mots qui sont chuchotés. Est-ce que le théâtre permet cette adresse, cette proximité, ou au contraire, est-ce que passer par le théâtre, c'est accepter aussi de rompre avec quelque chose?
Alors, le théâtre peut aussi être très, comment dire, très, parce qu'il y a tellement de performances, tellement de façons de faire le théâtre, qu'il y a bien sûr moyen de créer aussi cette sensation au travers du théâtre, je pense. Oui. Mmh.
Lucas, il y a beaucoup de pièces qui ont été traduites en français et donc qui ont tourné. J'ai cité Les névroses sexuelles de nos parents. Ça, c'était en une pièce que vous avez écrite en 2003 qui nous racontait l'histoire d'une jeune femme handicapée mentale qui se retrouve en fait libérée de ses médicaments, voilà, de son protocole médical, et qui retrouve en fait sa sexualité. Donc ça nous parlait de sexualité, de contrôle social, d'autonomie aussi des personnes en situation de handicap mental. Il y a eu le bus, où là c'était une quête spirituelle d'une jeune femme qui partait vers un pèlerinage. Il y a eu le voyage d'Alice en Suisse qui nous parlait d'euthanasie, de dignité humaine. Il y a eu le formidable pétrole aussi qui nous introduisait dans les méandres de l'industrie pétrolière. On le sait, vous avez la réputation d'être un écrivain et un dramaturge engagé. Vous vous intéressez vraiment aux dilemmes moraux, aux dilemmes sociaux. En fait, ça part jamais gratuitement d'une histoire particulière ou d'une anecdote. Le cadre est toujours beaucoup plus large. C'est le cas aussi dans vos romans, c'est le cas aussi dans vos essais. Moi, je me demandais, est-ce que vous triez, dans le sens, est-ce qu'il y a des messages qui se délivrent mieux dans une forme ou dans une autre? Est-ce qu'il y a des messages qui vont mieux passer, par exemple, sur scène que dans un livre, ou est-ce que finalement ça se décante après avoir écrit ça?
De nouveau, une très bonne question où j'ai pas trouvé de réponse. Je ne sais pas, je ne suis heureusement jamais en face de cette décision. Je dois jamais me poser la question si je vais écrire une pièce de théâtre ou un roman. Mm-hmm. Ça se décide automatiquement. Et je crois que c'est plutôt à qui je m'adresse.
Ouais.
Et puis avec un livre, il y a quand même une certaine intimité. Et puis, le théâtre est une res publica, c'est une chose publique. Et puis, c'est souvent aussi payé par la commune ou bien par la ville. Donc, on prend vraiment un statut un peu officiel.
On a plus de responsabilités que quand on écrit son roman dans son coin, entre guillemets, si je puis dire.
Je ne sais pas si c'est une autre, c'est une autre responsabilité, ouais. Mais c'est clair que dans le théâtre, tout est politique. Les corps font la politique, les costumes, les décors, le public lui-même, c'est une affaire politique.
Mm-hmm.
Et c'est aussi pour ça que je trouve que le théâtre, c'est une chose universelle. On le trouve dans toutes les cultures, on les trouve... les enfants commencent avec le théâtre très tôt.
Mm-hmm.
Et j'aime aussi cette côté un peu primitif, si vous voulez. Donc, dans le théâtre, il y a vraiment les choses primaires qui comptent. Et ça, c'est pas toujours gai à voir. Mais c'est aussi une institution, comme Eden Horvath a dit, pour partager les sensations asociales d'une communauté. Et puis ça, j'ai toujours... aimé au théâtre.
Ouais. Si théâtre politique, est-ce que c'est pour ça que c'est que le théâtre est à ce point attaqué par le politique régulièrement dans des régimes d'extrême droite, par exemple?
Mais bien sûr, hein, parce que
pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent au théâtre, selon vous?
Pas seulement au théâtre, mais le théâtre rassemble les gens d'abord, et puis les gens dans le théâtre font déjà une première foule révolutionnaire. Ça, il faut aussi dire que le théâtre et puis la révolution, ça c'est quelque chose dans l'histoire qui était très important. Et puis ils ont bien raison d'avoir peur du théâtre, donc je les comprends.
Est-ce que la Belgique n'est pas née suite des représentations, ouais, l'opéra?
Tout à fait, effectivement, on est sorti de là, et c'est une excellente remarque, et j'ai envie de rebondir là-dessus. Forcément, le corps politique et la qualité révolutionnaire et internationale du théâtre, ça vous parle forcément à tous les deux. Vous bougez énormément, hein, tous les deux. Vous sortez de vos zones culturelles et linguistiques. Isabelle Horry, vous avez fait un long voyage en Chine. Moi, je me demandais, vous qui bourlinguez et qui sortez justement de vos zones, entre guillemets, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous touche sur les scènes internationales aujourd'hui? De quoi ça parle en dehors de la création respectivement francophone et germanophone et peut-être même européenne?
Alors, pour l'instant, je pourrais vous parler un peu du Mexique,
ouais,
puisque... j'ai eu la grande chance d'aller au Festival de littérature de Guadalajara, cette foire magnifique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rester un petit peu au Mexique et d'observer ce qui est en train de se passer au Mexique. C'est une présidente actuellement de gauche qui vient d'entrer en service dans un pays où les femmes sont très maltraitées.
Mm-hmm.
J'observe ça avec beaucoup d'attention et ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir dans le monde dans lequel nous vivons pour l'instant.
Yeah. Un message d'espoir, ça fait du bien, je trouve, dans la conjoncture actuelle. Vous êtes traduits tous les deux dans de nombreuses langues, ce sera sans doute ma dernière question. Ça fait quoi de s'entendre ou de se savoir lu dans d'autres langues? Et est-ce qu'on commence à réfléchir finalement à ces potentiels lecteuristes, spectateuristes qui pensent et qui rêvent peut-être dans d'autres imaginaires que le vôtre?
Alors ça, c'est la reconnaissance la plus belle, je trouve, d'être traduit et puis d'être compris dans une langue qu'on ne parle pas. Ça, c'est un merveille, oui. Et puis, on trouve aussi une force là-dedans, parce que ça veut dire que ce que j'ai à raconter, c'est pas quelque chose de culturel, mais transculturel. Et puis, et je suis toujours bouleversé. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu la traduction d'un livre dans le la de Corée du Sud. Et, oui. Puis, je comprends même pas l'alphabet ou bien l'écriture. Et puis, ça, c'est vraiment très touchant.
Rouge Western vient d'ailleurs d'être traduit en espagnol.
Non, je l'espère. Non. Mais mon deuxième roman, Marilyn Desossés, qui a reçu le prix de l'Union européenne, a été traduit dans une douzaine de langues. Et je rejoins Lucas, c'est une récompense extraordinaire de savoir que l'histoire qu'on a écrite s'adresse, est susceptible d'être perçue par d'autres cultures, comme la géorgienne ou des pays, des contrées où, voilà. C'est vraiment très très intéressant.
Oui, et si je peux ajouter, parce qu'on parle du théâtre, c'est encore plus beau dans le théâtre, parce que si on voit les caractères, je ne sais pas, en Gili ou bien en Uruguay, qu'on a écrit, et puis c'est pas seulement les phrases, les mots, mais des personnages, des gens qui font ça, c'est cool.
Les histoires qui voyagent donc à l'oral comme à l'écrit. On voudrait vous garder encore des heures et des heures, mais le chrono tourne, je vais devoir vous libérer. Merci infiniment, Lucas Barfous, Isabelle Berry. Je rappelle donc Rouge Western, ce western chorizo en Andalousie avec cette formidable héroïne qui s'appelle Vanina, cette vieille dame indigne, sera retrouvée en sieste sonore. Ce sera le 29 mars dans le cadre du festival Passaporta.
Tout à fait.
Au Martyrs.
Au Théâtre des Martyrs à 13h30.
À 13h30, on y sera en tout cas, et le roman est toujours disponible au Diable Vauvert. Lucas Barfous, je rappelle, votre dernier livre, Le carton de mon père, Réflexion sur l'héritage, est paru aux éditions Zoé. Vous êtes encore sur la foire aujourd'hui et demain, je pense que vous serez en rencontre vers 16h, si ma
mémoire
est bonne.
Tout à fait, avec un collègue polonais. On va te parler du théâtre.
Voilà, on sera ravis en tout cas de vous y retrouver. Merci d'être passé dans Kiosque.
Merci à vous tous. Merci beaucoup.
Bon, on va aller directement vers vous, Cédric Wauthier.
William.
On va parler d'amour.
Mais oui. On va parler d'amour, c'est bien l'amour.
C'est bien l'amour.
Est-ce que vous êtes du style, Cynthia, à justement parler d'amour, puisque vous êtes pleinement heureuse en amour, on le sait toutes et tous.
Mais je suis plutôt pudique en fait.
Ah ouais.
Ouais. Je suis plutôt love language dans les actes plutôt que dans les mots.
Donc vous n'êtes pas du style à en parler à votre meilleure amie en disant « Ah, oh, il s'est passé ça, c'est formidable. »
J'ai du
ça.
Mal.
Ah ben voilà. Eh bien, sur scène, c'est pas du tout le cas. Judith et Ophélie, ce sont deux personnages, elles sont en coloc, toutes les deux. Judith, elle a connu l'amour, mais elle s'est fait larguer par sa copine il y a un peu plus d'un an, donc elle a un peu de difficulté évidemment à envisager une nouvelle relation, ou en tout cas à se lancer pleinement dans une nouvelle relation. Ophélie, par contre, elle, c'est une éternelle amoureuse. Et elle y va, mais à fond dans l'amour. Et elle vit l'amour, elle vit les premiers instants. Et elle raconte, et elle parle énormément, toutes les deux. C'est une vraie réflexion autour de l'amour. C'est un spectacle extrêmement réjouissant et extrêmement drôle, qui est signé Lisa Cogno, qui joue et qui interprète le rôle de Judith avec Stéphanie Goumard. Et donc, on va vraiment plonger dans l'univers de cette colocation. Et on est un peu comme l'aîné qui regarde un petit peu, pas les enfants, mais les grands adolescents ou les jeunes adultes parler de leur vie, et on se délecte de cela. Et puis on se délecte aussi de la réflexion autour de l'amour. C'est la première question que j'ai posée à Lisa Cogno, hein, c'est pourquoi à un moment est-ce qu'on se pose pour réfléchir à ce qu'est l'amour ?
Depuis que je suis jeune, j'ai vraiment eu mes plus grands chagrins, c'était des chagrins d'amour. Et ça me mettait dans des états où je me disais, il y avait un endroit de moi qui me disait, ce n'est pas normal d'être aussi triste parce qu'on n'est plus avec quelqu'un, alors qu'on sait qu'on est dans une société où les gens ne restent pas toute leur vie ensemble, en fait. Et je crois que c'est cette contradiction-là qui... Le fait qu'on a envie d'éternité et qu'en même temps, nos modèles sociétaux font qu'en fait, on prône à la fois l'éternité et à la fois le... qu'il y a plein de gens qui se séparent, qui m'a poussée à un peu creuser la question. Et puis quand même récemment, il y a une pensée féministe qui émerge vraiment par rapport à ce sujet. Il y a eu plein de livres qui sont sortis. Je pense à Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard, mais il y avait le livre de Mona Choëlet, Réinventer l'amour. Il y a eu un podcast, Le cœur sur la table. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes qui, un peu au même moment, se sont dit « Waouh, mais il faut qu'on s'empare de ce sujet aussi un niveau féministe.
Ouais.
Faut qu'on s'empare de ce sujet et de cette réflexion aussi, et c'est ce que Lisa Cogneau fait dans ce spectacle, où elle va décortiquer finalement la notion d'amour romantique. En revenant sur les bases, la création du mouvement romantique, en expliquant que voilà, quand l'Église est moins importante au niveau de la société, il faut retrouver quelque chose et ça devient l'amour romantique. L'amour romantique qu'on va retrouver au théâtre, mm-hmm. qu'on va retrouver dans la peinture, qu'on va retrouver dans les chansons, avec une réflexion aussi sur la place de la femme dans cet amour romantique. Si on regarde toute une série de tableaux, ben on ne peut pas dire que ce soit extrêmement réjouissant pour l'équilibre homme-femme. On a souvent cette belle, ou au théâtre, une belle femme qui se laisse aller par amour, à faire ce que l'autre veut, qui meurt même parfois d'amour. Peut-on mourir d'amour? C'est le titre du... Peut-on encore mourir d'amour? C'est le titre de ce spectacle. Et donc, entre l'éclat de rire, entre la légèreté que l'on retrouve sur scène, il y a aussi cette réflexion et cette théorie autour de l'amour et de l'amour d'aujourd'hui.
Bah, moi, je crois que les modèles d'amitié sont hyper puissants, qu'on peut trouver de la joie et de la passion, et aussi qu'on peut construire sa vie autour de ses amitiés. Ça, c'est un truc qu'on pense depuis... Enfin, que je veux dire, en tant que société, on commence à y réfléchir. Ça, je crois que ça peut être une porte. Et puis que nos histoires d'amour ne soient plus le centre de nos vies, en fait. Que ce soit un truc joyeux et chouette, et... mais pas comme des arbres qui poussent complètement entremêlés et que du coup quand ça marche plus, ben on est complètement dans la merde, quoi. Enfin, ça met des mois, des années, pour se désentremêler. Et ça, je crois que c'est peut-être un truc. En tout cas, moi, j'ai pas envie de donner de leçons. Hein. De toute façon, on veut pas donner de leçons à qui que ce soit. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'essaie dans mes relations.
Oui, c'est ça. D'essayer de. Moi, j'essaie de trouver mon indépendance. Enfin, de trouver des indépendances. Autour de ça, comment on est indépendant et pas dépendant, en fait, sortir des dépendances. Enfin, chez moi, c'est vraiment ça, c'est ça qui me guide, en fait, à chaque fois que je trouve mon indépendance, c'est de me dire, ok, je trouve quelqu'un, quelqu'une d'indépendant.
C'est une notion intéressante, hein, finalement, remettre l'amour à sa juste place dans tout ce qui compose nos vies.
Vous voyez que c'est intéressant. C'est intéressant de se poser, de réfléchir à l'amour. Vous n'allez plus regarder votre homme de la même manière ce soir, je le sais, vous allez commencer à y penser. Mais c'est ça qui est très intéressant dans ce spectacle, c'est que vraiment, il y a cette réflexion, et puis on se dit, oui, mais ça c'est très bien, c'est de la belle théorie. En même temps, quand on tombe amoureux, ben, on retombe parfois dans ses travers.
Eh oui, on rechute.
Mais on peut quand même avoir une part de soi qui se dit pop, 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 là je reprends le mauvais chemin, ou on peut se calmer, ou là je suis un petit peu trop à la, ben voilà, à la merci de ce que l'autre veut, etc. Donc je dois retrouver mon indépendance. Je l'ai dit, c'est un formidable spectacle, c'est extrêmement réjouissant.
À partir
c'est
de quel
extrêmement
âge
drôle. Allez-y, mais amenez vos ados avant qu'ils ne connaissent leur première histoire d'amour, le premier chagrin d'amour peut-être aussi. Amenez les ados, allez-y, parce que c'est vraiment, on rit beaucoup. Et puis les parents que nous sommes, enfin en tout cas certains, vont s'y retrouver aussi en se disant « Ah tiens, ça change, il y a quelque chose qui se passe dans cette génération ». Et le côté réjouissant, ben, c'était une volonté aussi de Lisa Cogneau et de Stéphanie Goumard.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de Lisa, c'est qu'elle a un côté très intello, mais elle a un côté très pop aussi. Et il y avait cette envie de mettre tout ça là-dedans. Et du coup, et puis elle est très drôle. Moi, elle me fait beaucoup rire. Et dans cette écriture, il y a un peu tout ça qui se rassemble. Et on n'avait pas envie, ben justement, d'être plombante. Et on aime toutes les deux aussi tout ce qui est sitcom et les séries qui parlent aussi d'amour, mais comme ça, avec beaucoup de rire. Et c'est venu un petit peu de ça aussi.
Ouais, c'était vraiment une envie. Et puis aussi, moi, je sais que quand je suis spectatrice, parfois, quand je rigole et qu'après, il y a un truc un peu coup de poing derrière, ben, je suis d'autant plus prise que parfois, quand tout de suite, on me dit « Ok, le monde va mal et c'est horrible, c'est la merde et tout ben, », je me protège, en fait, parce que le monde va mal et c'est horrible et c'est la merde. Et parfois, je fais genre « Oh, en fait, ce soir, c'est un peu trop. » Et du coup, je suis moins perméable. Mais ça, c'est moi en tant que spectatrice, quoi. Du coup, on a quand même un peu réfléchi à ça, parce que je trouve que par le rire, parfois, on chope des gens qu'on n'aurait pas chopé autrement.
Par le rire et par la musique aussi, vous qui adorez chanter, vous allez probablement chanter. Il y a des références, évidemment, à toute une série de films et de sites, comme on parle de Titanic, on parle de plein de films. On parle évidemment de Dirty Dancing.
Mais oui.
Ben oui. Et on va peut-être chanter et danser sur Dirty Dancing en allant voir ce spectacle qui se joue jusqu'au 23 mars au Théâtre des Martyrs à Bruxelles, et puis en tournée pendant un mois, du 25 mars au 23 avril. Toutes les informations sur le site du Villard, levillard.be.
Merci beaucoup Cédric Poitier.
C'est un plaisir.
François, je vous ai vu acquiescer tout du long. Vous avez vu le spectacle?
Mais oui.
Est-ce que vous avez chanté, dansé?
On a un petit peu chanté, on a un petit peu dansé. Et puis surtout, ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont la culture, dont les séries télé, dont la chanson française nous influence aussi et nous conditionne à vivre cet amour romantique. Moi, ça m'a frappé aussi. Ouais.
On a essayé de porter de Dirty Dancing avec François et on n'y est pas arrivé.
Oui, j'étais en dessous. C'est pour ça.
Vous allez pouvoir réessayer si vous voulez sur Lola Young. L'amour, c'est compliqué. compliqué, parfois même c'est bordélique. Voilà. C'est l'excuse parfaite pour s'écouter Messi sur la première.
La première, kiosque.
Nous sommes toujours en direct de la Foire du Livre. Il y a toujours Cédric Wautier, il y a toujours François Caudron, il y a nos nouveaux invités qui s'installent dans une poignée de secondes à ma droite. François, il y a beaucoup d'activités hein, ici à découvrir en famille à la Foire du Livre. Il y en aura notamment aujourd'hui encore et demain, vu que demain c'est une journée spéciale famille. Et il y a ce spectacle Kamishibai qui sera présenté eh bien, dans quelques minutes d'ailleurs, dans le chapiteau des contes.
Absolument, et c'est une invitation à la lecture parce qu'à la Foire du Livre et ailleurs, on aime se raconter des histoires. Et on peut le rappeler, la Foire du Livre cette année porte une attention toute particulière à la jeunesse. Mmh. Un nouvel espace a vu le jour au cœur de la gare maritime. C'est un village famille et ce nouvel espace dédié aux familles, il accueille de nombreuses activités et notamment le spectacle Kamishibai. Kamishibai, c'est un mot qui vient du Japon et c'est une forme de lecture de conte, une lecture en images et puis surtout à partir d'un petit castelet de bois. Les enfants prennent place devant le dispositif, le castelet s'ouvre et c'est un monde d'images qui apparaît. Nous avons rencontré Méline Dautouang et Valérie Delarue autour de leur petit théâtre d'images.
C'est un petit castelet. En fait, c'est originaire du Japon. Donc, vous avez Shibai qui veut dire théâtre, théâtre en papier, et Kami qui veut dire papier. Donc, ça a commencé à être un peu plus popularisé dans les années 30, suite à la crise au Japon. Et c'était des petits marchands ambulants qui se déplaçaient à bicyclette. Ils pouvaient vendre
des friandises,
des choses comme ça. Et en même temps, ils essayaient d'appâter, en fait, voilà, avec par exemple des petits bruits comme ça.
Pour faire
venir le public et présenter le petit spectacle en échange de quelques petites pièces.
Alors, il y a le castelet qui est en face de nous. Est-ce qu'on l'ouvre ?
On peut l'ouvrir.
Alors, avant de raconter l'histoire, on toque sur les petits bâtons. On ouvre les pans de la boîte en bois et là, on découvre l'image de l'histoire qu'on va raconter.
Là, c'est une histoire de hérisson.
Bonsoir, Khan. Que fais-tu ?
Bonjour hérisson, je couve mes œufs, ils vont bientôt éclore.
Alors le public voit l'image de l'histoire, les images, et nous, à l'arrière du castelet, voilà. On voit le texte.
C'est le sous-titre pour les interprètes.
Voilà,
hein.
Voilà exactement. C'est très interactif et le public est vraiment partie prenante dans cette histoire.
Par l'histoire du Kamishibai, c'est vraiment un outil qui est fait pour interagir avec le public et pour être très dynamique et vivant. Lecture vivante.
Voilà, une lecture vivante à l'image des interprètes Méline Dautouang et Valérie Delarue. Elles seront dans quelques minutes à 15h sous la petite toile du petit chapiteau des contes à la Foire du Livre. Le spectacle lecture Kamishibai est accessible dès 3 ans et c'est un spectacle qui nous rappelle qu'il est toujours bon de lire avec ses enfants.
Oui, et même quand ils ne savent pas encore lire, hein, dès 3 ans, donc on va pouvoir les amener et les initier, leur ouvrir la curiosité. Initiative qui est portée donc par Place au Livre, la bibliothèque itinérante du Brabant Wallon. Merci beaucoup, François, pour cette jolie chronique. Dans la suite, nos invités sont Émile Lanceman et Camille Pierre.
Kiosque sur la première.
On est toujours donc à la Foire du Livre et c'est vrai que ça fait longtemps, ça faisait un moment qu'on avait envie d'aborder dans cette émission les liens entre les textes de scène et l'écrit. Et moi en tout cas, à quoi ça sert finalement d'éditer des textes de scène ? Qu'est-ce qu'on édite ? Qu'est-ce qu'on garde dans le flux continu de la création ? Et puis à qui ça profite de lire des textes qui ont été pensés à la base pour être dits ? Peut-être que je me pose trop de questions, mais la bonne nouvelle c'est que je ne vais plus me les poser toute seule. Bonjour Émile Lanceman.
Bonjour Simon.
Bienvenue dans Kiosque. Émile Lanceman, vous êtes le cofondateur hein, des éditions Lanceman, de la maison Lanceman qui a été créée en 1989 à Morlanwé, en Wallonie. Une maison d'édition qui, en 31 ans, a publié plus de 1300 ouvrages, dont énormément sont en fait des textes de scène et même des textes de création émergente. On va en parler dans un instant. Une maison d'édition, j'aimerais peut-être bien qu'on revienne sur les prémices de son histoire, qui s'est créée un peu, pas sur un hasard, mais en tout cas sur une direction qui n'était pas la première, vu que vous, à la base, vous venez du théâtre jeunesse et de la promotion pour le théâtre jeunesse. Et c'est dans ce cadre, finalement, que cette maison d'édition a vu le jour à la fin des années 80.
Absolument. En fait, je dirigeais l'association Théâtre-Éducation, qui s'appelait
promotion théâtre à l'époque, qui est devenue ITAC aujourd'hui. Et on allait voir des jeunes qui faisaient du théâtre dans le cadre scolaire en dehors. Et qu'est-ce qu'on voyait ? Shakespeare, Molière, Anouilh, Tardieu un peu. Puis on disait... Alors en plus, ils voulaient monter tout le spectacle. Donc on imagine la fin du spectacle, ce que ça donnait. Et on disait aux animateurs, aux profs souvent, mais pas forcément que des profs de français, pourquoi vous ne choisissez pas des textes écrits par des gens d'aujourd'hui qui parle du monde d'aujourd'hui à des jeunes d'aujourd'hui et de manière plus synthétique. Ce serait quand même plus excitant pour eux de monter ça. Et ils me disaient, oui, mais trouvez-les parce que nous, on ne les trouve pas. Et effectivement, je me suis rendu compte assez rapidement que dans les années 80, on se posait cette question de l'existence du théâtre contemporain dans son écriture.
Il était invisible, en fait, si je vous souviens.
Il était non seulement... il existait, mais il n'était pas publié. Parce qu'on publiait, c'est la grande époque de Coltès et ainsi de suite, c'est-à-dire des textes qui n'étaient pas des textes dramatiques au départ et qui étaient publiés et montés de toutes les façons possibles. Mais les auteurs dramatiques, en Belgique, à ce moment-là, il y en avait 5 ou 6 qu'on pouvait répertorier. Et pas d'autres.
Et ça a changé, ça, aujourd'hui ? Ça a véritablement changé ?
Ah oui, là, je peux... Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que on se bat toujours contre des murs en Belgique pour convaincre que le théâtre, ça se lit. En France, la question ne se pose plus. Je parle du théâtre contemporain. Mais en Belgique, c'est un combat. Je vais mourir sans avoir réussi. Mais parce que c'est comme ça. Parce que dans les programmes scolaires, on ne fait pas apparaître la nécessité de lire cette littérature dramatique. Alors, on dirait qu'il y a 2 littératures dramatiques, l'ancienne et la nouvelle. La deuxième, elle n'est pas lisible. Bon, on peut discuter de ça. Mais donc, pour en revenir aux prémices, on était vraiment là. On a lancé en Belgique un appel en disant, si vous écrivez du théâtre, envoyez-nous vos textes. Et j'avoue que je me suis fait un peu moquer comme ça, en disant, mais il n'y a pas d'auteur. Et on a eu, en 3 mois, 97 textes de 93 auteurs différents. Rien que Fédération Wallonie-Bruxelles. On s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe, là. Bon, bien sûr, c'était des textes qui n'avaient jamais été confrontés à rien, ni à la littérature, ni à la scène. Et donc, c'était des textes qui méritaient d'être travaillés. Mais je suis sur la première. Je peux quand même dire que l'une des deux lauréate qui est sortie, c'est Pascal Tison quand même, que personne ne connaissait absolument, qui nous avait écrit, je précise qu'on n'avait pas dit que c'était pour monter avec des jeunes, qui nous a écrit un texte du genre « Je t'aime moi non plus », qui était immontable par des jeunes, et l'autre c'était un texte d'un auteur qui écrivait pour le théâtre amateur, c'était 2 vieux qui étaient assis sur un lit, qui se disaient « Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas ?» Donc, mon association a dit « Ok, on assume, on va faire des on va publier ces 2 textes, mais on arrête. » Et j'ai dit avec mon épouse, mais moi je continue. Et notre option, c'était 2 auteurs belges pas connus par an. On a donc, comme vous l'avez rappelé, 1435 livres aujourd'hui, 3500 pièces. Et le premier belge non connu que j'ai publié, il s'appelait Sonny Laboutanzi, il n'était pas belge, et on parlait de lui pour le prix Nobel de littérature.
Une histoire incroyable. On va continuer dans un instant. J'en profite, honte à moi, pour saluer Camille Pierre. On a plongé dans la discussion. Camille était en train de s'installer, je ne lui ai pas dit bonjour. Bonjour Camille Pierre.
Bonjour.
Voilà, c'est comme ça que je vous ouvre.
C'était passionnant.
Oui. Camille, vous êtes poète, auteur, performeur. Vous arpentez tant les scènes slam que les scènes cabaret, que les scènes de théâtre. Vous êtes illustrateur aussi. Ça fait des années que vous bourlinguez sur les scènes. Aujourd'hui, vous êtes publié notamment aux éditions Maelstrom pour vos recueils de poèmes. J'imagine que cette difficulté à émerger en tant que nouvelle écriture, ça vous parle ?
Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est un peu les mêmes mécanismes, finalement, d'un genre littéraire à l'autre. L'idée que ça ne se lit pas ou ça ne se vend pas. Mm-hmm. Parce que moi, au début, quand j'ai démarché, il y a une dizaine d'années, pour être publié en tant que poète, on me disait, ce n'est ni de la poésie, ni de la chanson, ni du théâtre, ni même du sketch, ce que vous faites. Donc, en gros, dans le fondement, ce qu'on me disait, c'était, je ne sais pas où on va vous ranger dans la librairie pour ensuite pouvoir vous vendre. Ouais. Et depuis quelques années, on constate ça avec d'autres auteuristes. On voit que de plus en plus, il y a des événements littéraires qui demandent à ce que les personnes performent leurs textes, y compris dans la poésie. Et que ça, c'est assez récent. Maintenant, c'est un endroit, on va dire, un peu plus propice pour les personnes comme moi qui faisons des choses très hybrides avec les mots, mais c'était pas gagné au début. Et effectivement, L'Arbre de Diane et Maelstrom, c'est des maisons d'édition qui ont fait confiance à mon écriture.
Et vous pensez que le slam y est pour quelque chose, que l'émergence du slam a permis justement de prendre conscience que, ben, en fait, c'est beau à entendre, c'est beau à lire, mais c'est beau à entendre un texte comme le vôtre.
Ben en fait, le slam, c'est une des manifestations de comment on dit de la poésie sur scène ou de manière sonore. C'est quelque chose qui existe depuis très, 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 très longtemps. Mais disons que moi, je dirais que c'est l'apparition du collectif El Slam qui a fait bouger les lignes.
Qui fête ses 10 ans ?
Oui, qui fête ses 10 ans, exactement. Qui a vraiment mis à l'avant-scène les minorités, en premier ressort, les femmes, les minorités de genre, mais voilà, différentes minorités sur les scènes slam. Et en fait, je pense que plus que d'être un truc qui est devenu à la mode, c'est un truc qui a vraiment gagné l'affection des personnes et surtout un genre d'urgence à dire, d'urgence à écrire, à s'écouter, à se lire, à se célébrer, à se pousser les uns les unes les autres vers l'avant. Et c'est d'un mouvement collectif et volontairement solidaire que ça a bougé. Donc effectivement, il faut des actions volontaires, concrètes, mais seul, c'est compliqué.
Ouais, heureusement, on l'est quand même de moins en moins seul. Ça s'organise, et ça s'organise d'ailleurs depuis 31 ans avec des initiatives aussi folles, hein, il faut le dire, hein, que celles que vous avez eues en 89, Émile Lanceman. C'est vrai que le décloisonnement des genres et des formes, et vous le dites, le plaisir de lire le théâtre, ça a toujours été un des leitmotivs de la maison d'édition. 31 ans, 1300 textes publiés, et je n'ose imaginer combien d'autres reçus, lus, examinés. Est-ce que vous avez vu justement une tendance émerger pendant ces 30 années entre le théâtre, ce qui était l'écriture du théâtre contemporain belge à la fin des années 80, ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vu finalement comme progression?
Je voudrais faire une petite remarque. Depuis le début de l'émission, avec le collègue aussi, on parle de le théâtre, comme si le théâtre existait en tant que tel. Les théâtres, il y a des formes très très différentes. Donc, moi, j'ai vu effectivement des formes qui évoluaient. Par exemple, à un moment donné, on n'a pas dit, mais je publie beaucoup de francophones hors européens, en Afrique, Québec et ça. À un moment donné, on disait, pour savoir exactement à quoi peut servir le théâtre, il faut aller en Afrique et voir le théâtre. C'est vrai, mais les auteurs africains avaient inventé, parce qu'ils s'adressaient à des publics très variés, tout ça, enfants, adultes, voilà, ce qu'on pourrait appeler la comédie dramatique. C'est-à-dire, ils faisaient rire sur des choses graves. Et ça, c'est un genre qui s'est exporté. Et aujourd'hui, on trouve La Reine Rouge, par exemple, qui vient d'être créée au parc. On est tout à fait dans ce cas-là. Ouais. On est sur un texte qui raconte des choses qui pourraient être dramatiques quand on lit au deuxième degré, mais de manière assez burlesque, même d'une certaine manière. Donc, oui, on a vu les choses évoluer. On a vu aussi un certain nombre d'auteurs qui s'imaginaient que pour se faire connaître, il fallait se regarder le nombril et dire « est-ce que je suis le centre du monde ?» qui, tout à coup, ont découvert qu'ils pouvaient aussi porter des paroles, y compris illégitimes pour eux. La question se pose toujours, est-ce qu'un auteur belge peut parler des enfants soldats en Afrique? Ils ont dit, ok, moi je peux plus résister, j'ai envie de parler de ça, même si je ne connais que ça. Donc il y a eu une grosse évolution de forme, une grande exigence d'écriture, et évidemment de thématique.
Ouais. Alors il y a aussi, on pourrait en parler des heures, malheureusement on va devoir conclure, parce qu'on aimerait aussi laisser la parole de fin à Camille, qui va justement nous lire et nous déclamer quelque chose. Il y a la constitution d'un répertoire, il y a le pari sur des écritures émergentes qui, on l'a vu, après se confirment et deviennent finalement des classiques modernes. Il y a toujours un peu cette question, je vais me faire l'avocat du diable, à qui profitent en fait ces lectures? Qui achète, qui lit ce genre de livres en dehors peut-être du cercle fermé, des gens qui pratiquent finalement la scène?
J'ai envie de vous dire, allez voir en France, dans tous ces collèges, même à l'école primaire et au lycée, bien sûr, où des jeunes lisent, discutent, priment des textes et tout, et vous comprendrez tout de suite que cette fausse conception de la difficulté de la lecture, elle n'existe pas. Le théâtre, je pense, se lit plus facilement parce qu'il y a des dialogues, on peut lire oralement de manière... Et donc, effectivement, d'abord au public, je dirais, là, et puis ça profite aussi aux auteurs. Enfin, si je prends quelques auteurs belges, par exemple, qui seraient restés tout à fait inconnus en dehors s'il n'avait pas été publié, ces deux livres de soi. Pamela Guinin, par exemple, qui est la dernière, Céline Delbecq, enfin, genre, il y en a beaucoup, Alex Lorette, par exemple. Mm-hmm. Et donc, effectivement, ces auteurs, ça, publier les textes et les envoyer à la lecture, ça veut dire qu'on ouvre les horizons des auteurs.
Ouvrir les horizons des auteurs et puis ouvrir les horizons des lectrices, forcément, qui, par le biais de ces lectures, auront sans doute envie de venir écouter ces textes au théâtre. Merci infiniment, Émile Lanceman, pour ce témoignage et pour ces sages paroles. On rappelle les éditions Lanceman qui existent depuis 1989. 1300 textes publiés et ça continue, évidemment. Je vais me taire et je vais laisser la parole à Camille Pierre, le dernier mot. Vous avez choisi un texte que vous allez nous déclamer. Le titre, c'est
C'est Musique ancienne.
Musique ancienne, on vous écoute.
Juste pour placer, j'avais un an quand vous avez lancé cette maison d'édition. Et là, je vous propose un petit voyage dans une musique baroque volontairement anachronique. Et c'est un poème issu du recueil Feu l'amour qui est paru aux éditions Maelstrom. Les petites mains jouent de la viole de gambe, un instrument de musique ancienne, avec la caisse en bois courbe entre les jambes et un archet de cheveux au bout des doigts. La viole de gambe n'est pas un instrument très sonore, on n'en joue que dans les chambres. Et pour bien entendre sa voix, il faut tendre les cheveux de chevaux contre les cordes en boyaux et la caisse de résonance fendue fait le reste. Peut-on bander l'archet pour faire de la viole une parfaite flèche d'amour? Ces petites mains me jouent comme un air de viol où les deux corps sont en couple. Un petit air de lutte au féminin, fait main dite petite et mine de rien. Comment chanter juste là-dessus et dire avec des notes que j'ai passé mon passé à ne pas oser dire non, puis à penser pardon par honte, et qu'elle a passé un peu du sien à me redessiner par onde de choc. Les petites mains jouent du luth baroque, un instrument de noble origine, avec un manche immense pour atteindre la cime la plus grave du spectre, et que redessine sa caisse sous les caresses du plectre. Le luth baroque n'est pas un instrument très souple, ce sont des doubles cordes à mettre d'accord. On passe des heures à essayer de s'accorder, puis on passe tout le concert à jouer un petit peu faux. Ma peau séparait-il du bois de viol, du bois de luth? Voilà les légendes dont m'ont bercé les archers de gambe que me chante la musique ancienne. Il paraît que mes hanches invitent, qu'elles vous veulent dans ma chambre vous jouer des senteurs de sienne, que mes jambes aussi feulent, qu'elles attirent les faveurs de vos étuis. Mais je sais, moi, que je me suis fait centaure, centenaire, satyre, mi-être de corps humain, mi-écorce de être. La Daphné se métaformose en un satané laurier pour échapper à l'Apollon. Mes jambes de branches saturent de sutures, font des nœuds d'ossature et mon tronc en peau de colon est tordu. Taille-y seulement des instruments de torture. Si tu l'oses, tu n'en tireras plus ni viol, ni lutte, pas même des pièges. La musique ancienne n'a jamais été la mienne et pourtant mes mains se souviennent des leçons de solfège. Comment s'y prend-on quand on n'avait pas bien appris que c'est aussi de bon ton de ne pas avoir envie de ses envies et de demander à l'autre de ranger son désir dans un étui étanche? J'ai dû m'éprendre de tous ces mensonges car il n'y avait rien de trop étrange. Peut-on brandir l'arc-en-ciel et faire de la lutte une cause plutôt qu'une conséquence? Ces petites mains me jouent comme un air de viol où l'un des deux corps, en l'occurrence le mien, était un homme trans, avec des seins. Un petit air de lutte au féminin, fait main dite petite et mine de sainte. Je veux en parler bien et dire avec des mots simples que j'ai passé mon passé à ne pas oser dire non, puis à penser pardon par honte, et qu'elle a passé un peu du sien à me redessiner par onde de choc. Entre les jambes, les petites mains jouent du luth baroque et de la viole de gambe.
C'est le privilège et le grand talent des poètes que de réussir à ralentir même le flux des passants de la Foire du Livre. Merci infiniment Camille Pierre pour ce moment suspendu. On rappelle le titre de ce recueil qui est paru aux éditions Maelstrom.
Feu l'amour.
Feu l'amour, je l'ai dans ma bibliothèque. Je vous le recommande. Merci beaucoup. Merci Émile Lanceman. Merci François Caudron.
Merci à vous.
Cédric Wautier, je pense que vous restez au poste.
Ah ben je vais rester, je vais me balader un peu dans la Foire du Livre avec Éric Brusson dans quelques instants.
Dans quelques instants, on vous retrouve.